Frère Richard, qui va présider le repas, le saint repas tantôt, va aussi lier donc le sermon, la Sainte Cène, avec cette idée que nous avons des responsabilités jusqu'à ce qu'il vienne. Et en fait, moi, je pensais au fait que nous sommes dans la période qui est traditionnellement appelée le carême, et c'est ça, dans certaines traditions chrétiennes, c'est une période de préparation spirituelle pour Pâques. Et cela permet à ces chrétiens-là de se souvenir que leur foi, elle est centrée sur Jésus-Christ. Et en fait, peu importe qui nous sommes, peu importe si on est dans telle ou telle tradition, notre foi, elle est centrée sur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle que nous proclamons et que nous te disons à toi ce matin, c'est Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Sa vie, sa mort, toutes ses œuvres, c'est le cadeau que Dieu t'offre pour que tu puisses avoir une relation personnelle avec lui, que tu puisses avoir une réconciliation avec lui et une réconciliation éternelle. Donc, quelque chose qui peut commencer dès maintenant, si tu places ta foi en lui, mais ça va se continuer après ta mort. Encore plus fort après ta mort. On sait tous qu'on va mourir, à moins qu'il revienne avant, mais sinon, on sait qu'on va tous mourir, mais on sera en relation encore plus immédiate avec lui après notre mort. C'est ce qu'on sait pour Suzanne, la belle-sœur de Jean-Claude, la sœur de notre cher Michel. Quel cadeau merveilleux que Jésus. Jésus, sa naissance, sa vie, sa passion, sa mort, sa résurrection, elle est pour nous. Et depuis la période du livre des Actes, nous voyons que des individus qui ont reçu le cadeau et ils ont été tellement virés à l'envers par l'amour de Dieu pour eux qu'ils se mettent à leur tour à transmettre le cadeau par toutes sortes de moyens. Puis si nous, on est ici ce matin, oasisiens et oasisiennes, c'est un peu, mais c'est beaucoup parce qu'il y a eu cette suite de personnes qui ont reçu le cadeau puis qu'ils l'ont transmis à d'autres. Amen. Jésus, c'est le grand cadeau qui continue de donner et puis qui continue à être donné. Et nous, on est appelés à continuer la chaîne. On est appelés à recevoir le cadeau et à le donner. Alors, quand on reçoit le cadeau de Jésus, quand on reçoit le cadeau de l'Évangile, c'est quelque chose de merveilleux. D'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que recevoir le cadeau, c'est plus facile souvent que de le passer à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, trouve ça difficile de parler de l'Évangile à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça difficile? Oui? OK. J'ai une autre question pour vous. Qui, cette semaine, a eu l'opportunité de parler de la bonne nouvelle à quelqu'un qui n'est pas encore croyant ou chrétien? Levez la main. Oh, wow! Hey! C'est quand même pas mal encourageant. Mais on comprend que c'est quand même une minorité. Moi, je ne suis pas sûr. J'ai parlé à un groupe, mais je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ou deux ou trois dedans qui étaient. Mais je peux dire que tout ça, c'est une illustration du fait que, oui, recevoir le cadeau, c'est facile. Le donner, ça peut être plus difficile. Le salut de Dieu, il est gratuit. Tu n'as pas besoin de le mériter. Tu n'as pas besoin de performer pour l'avoir. C'est quand tu réalises que tu n'es pas capable de plaire Dieu par tes propres efforts, que tu es prêt à recevoir le cadeau par la foi. Puis la foi, on peut l'illustrer comme une main vide tendue comme ça vers Dieu, qui lui va placer le cadeau dans ta main. Ce cadeau, il est gratuit, mais il produit beaucoup de joie et il va produire de la reconnaissance. Je pense à mon beau-père, Carl, qu'on a entendu prêcher ici, et je crois qu'on a déjà raconté cette histoire, peut-être pas. Ça s'est vraiment passé. Lui, il est venu au Seigneur, donc quand il était jeune, il venait d'un milieu très, très, très non-chrétien, païen, et quelqu'un lui a annoncé l'Évangile, et ça a vraiment viré à l'envers toute sa vie, toute sa façon de voir. Et il est devenu un évangéliste, un missionnaire, puis il a toujours prié pour sa mère, témoigné à sa mère. Mais il s'est éloigné d'elle à cause de sa vie d'adulte. Il s'est marié, il vivait avec sa femme et ses enfants au Michigan. Et un Noël, ils étaient en train d'ouvrir les cadeaux sous l'arbre de Noël quand le téléphone sonne. Puis c'est la maman de Carl qui appelle et qui dit, « Carl, j'ai un cadeau Noël pour toi. J'ai accepté le Seigneur dans mon cœur hier. » Et imaginez que, donc, Carl priait pour elle, lui témoignait depuis bien des années. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, « Au revoir, maman. » Il raccroche le téléphone, il relève le casque ou l'appareil et il achète 4 billets d'avion pour se rendre du Michigan jusqu'à Boston où elle appelait. Pas 4, 6, parce qu'ils étaient 6. Après, il est sorti dans le salon et dit, les enfants, ma femme, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas négocier avec sa femme, mais il n'a pas négocié. Il dit, on s'en va, laissez les cadeaux sous l'arbre, il faut pacter vos valises, on s'en va à Boston, grand-maman vient de devenir chrétienne. Et ils sont partis, puis quand ils sont arrivés, le soir de Noël chez elle, ben il l'a encouragée dans sa nouvelle foi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, l'évangélisation, le partage du cadeau, c'est quelque chose qui est né de la joie, de la reconnaissance qu'on finit par avoir quand on est sauvé par le Seigneur. Puis c'est en même temps, à vue humaine, c'est une entreprise qui est coûteuse, qui demande des sacrifices, qui demande surtout beaucoup d'amour. Il faut y être disposé. Il faut être prêt. Il faut être préparé. Un peu comme un soldat doit être préparé pour être capable d'apprécier le rôle qu'il va jouer de faire la guerre au profit de sa patrie. Il faut être formé pour faire l'évangélisation, un peu comme un soldat. Il faut être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important, pourquoi ça en vaut le sacrifice, et aussi comment bien le faire. Et heureusement, Jésus nous a donné un plan d'action qui est celui-ci. Donc, plusieurs connaissent ce verset. Merci. C'est le Christ ressuscité qui parle aux 11 qui sont sur la montagne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était vraiment un commandement qu'il leur a donné. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, qui est très important, premièrement, Ben, au verset 19, il y a trois commandements dans le commandement. Allez, faites des disciples, puis baptisez-les. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le verset 20, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que ce n'est pas marqué. Au verset 19, c'est les trois vers. Mais ce qu'on voit quand on regarde le grec, c'est que c'est le mot « faire des disciples » qui est le plus important des trois. Parce que les deux autres, c'est des participes. Mais ça, on n'ira pas dans un cours de grammaire. Mais le mot « faire des disciples », c'est le verbe, c'est un seul verbe en grec qui est « matetusate ». Ah oui! Donc, c'est un seul mot, c'est « discipler ». Ce n'est pas un mot français, mais on va l'inventer pour aujourd'hui. Alors, littéralement, ce que Jésus dit, c'est « allant ». Discipler les nations en les baptisant. Ou en allant, discipler les nations en les baptisant. OK? Donc, discipler-les. Et c'est l'idée principale. Très important. Par ailleurs, le verset 20, que vous ne voyez pas, mais c'est celui qui commence juste après. Et enseignez-leur. Alors, qu'est-ce que Jésus demande? Qu'est-ce qu'il demande d'enseigner? Donc, je à vous la parole. Peut-être que quelqu'un aimerait répondre. À obéir à la parole. Très bien. Donc, ce n'est pas un contenu simplement cognitif ou théorique. Il y a un élément pratique, puisque Jésus il demande d'obéir, de mettre en pratique. Et là, le verbe, je pense qu'il y en a qui ont même le texte grec, puisqu'il est devant eux, je ne suis pas sûr, mais c'est le verbe « téréo » qui veut dire « garder ». Donc, littéralement, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'idée de garder, plutôt que simplement de savoir? Quelle est la différence entre connaître, ou savoir, et garder? Avez-vous une idée? C'est précieux, il faut le garder, donc il faut trouver des moyens pour le garder. Oui. Et c'est intéressant qu'ici, le traducteur traduit « garder » par « mettre en pratique », qui est il y a quand même un lien entre garder puis mettre en pratique. Merci, Benoît. Donc, il y a tout un programme communautaire, un programme où il y a beaucoup d'engagement personnel de la part des disciples de Jésus pour faire ce qu'il demande ici. Former des disciples de Jésus capables d'apprécier le cadeau puis de le passer à d'autres, puis éventuellement de former d'autres à faire pareil. C'est un peu comme une roue qui tourne. Hein? Tu reçois le cadeau, tu deviens très reconnaissant, après ça, tu te formes pour le donner, après ça, tu formes d'autres, une roue, ou même, on va l'appeler une spirale, parce qu'on va dire qu'une spirale, comme un slinky, ça, en tournant, ça roule et ça avance vers l'avant. On voit en plus que dans le Nouveau Testament, il y a des formateurs de disciples. À commencer par Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? On le voit dans les Évangiles. Il a choisi, il a appelé plusieurs disciples. C'est vrai qu'il y en avait 12 qu'il avait comme sélectionnés pour une formation turbo, on va dire. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Et il vivait avec eux, il leur enseignait, il faisait des actions, il leur demandait de faire des actions, mais entre les actions, ils se parlaient, ils prenaient des repas ensemble, ils analysaient, ils apprenaient. Jésus vivait avec eux nuit et jour, on pense pendant à peu près 3 ans. Et eux, à leur tour, ils ont obéi, ils ont formé des disciples. Et il y a même Paul qui n'a pas fait partie de cette gang-là parce qu'il a été appelé après la résurrection. Paul, lui, il a formé des disciples, lui aussi, il a compris le principe. Et voici ce qu'il dit, Paul, à un de ses disciples qu'il a placé comme pasteur d'une église qu'il avait fondée. Et il me semble que dans 2 Timothée, Philippe il était Timothée est à Éphèse, donc l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas. Paul dit à son disciple Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, peut-être qu'il parle du message de l'Évangile, peut-être que ça s'ouvre à un enseignement beaucoup plus large, mais centré sur Christ et sur l'Évangile. Donc, ce que tu as entendu, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voyez un peu la stratégie. On n'a pas le choix. On est dans une spirale. Jésus nous a invités dans une spirale. Et nous avons un rôle à jouer. Un peu comme Timothée aussi. Vous savez qu'on parle dernièrement de l'église d'Antioche. Et la spirale, on a vu, elle tourne aussi à Antioche. C'est visible dans Acte 11, Acte 13, Acte 15, où on parle de cette église d'Antioche qu'on a pris un peu en modèle. Hein? Au départ, des disciples assez mûrs, assez forts, arrivent à Antioche d'autres villes et commencent à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à d'autres. Et puis, oui, Jean-Claude, qu'est-ce que... Non? OK. C'est pas à moi que tu parles. OK. Je parlais d'Antioche, hein, c'est ça? Oui. Alors, Antioche, il y a des gars qui arrivent, des hommes et des femmes qui arrivent d'autres villes, commencent à annoncer l'Évangile. Une église se forme, des nouveaux croyants en Christ rentrent dans l'église et clairement, ils sont formés parce que ça parle de l'enseignement qui se passe dans l'église et on voit des fruits. La communauté produit des beaux fruits, des fruits de générosité pour aider du monde dans la famine, d'autres choses aussi, de belles choses qui se passent dans leur réunion, on en a parlé. Et qu'est-ce qui se passe? L'Église décide que leurs deux enseignants et fondateurs les plus solides, pratiquement, on les envoie en mission, Barnabas et Paul. Et ceux qui restent, on voit qu'ils continuent le bon travail. L'Église continue à porter des beaux fruits, même après qu'eux soient partis. Pourquoi? Eh bien, parce que cette Église d'Antioche continue à former des disciples. La spirale, elle tourne à Antioche. Il y a une relève qui arrive et puis qui est capable de faire le travail que ceux qui partent ont déjà investi en eux. Vous me suivez? Ça va jusqu'à date? Il y a sans cesse des nouveaux convertis. Hop là! Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, en attendant, je vais continuer. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a comme une tension entre l'interne et puis l'externe. Hein? On va dire, mais moi, c'est l'évangélisation. Je ne veux pas perdre du temps à me tenir avec rien que des chrétiens. Et à l'inverse, on va se dire, mais Jésus, il dit, occupez-vous les uns des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie ceux du dehors? Bien, à Antioche, il y avait un équilibre entre les deux. Le fait qu'il y avait sans cesse des nouveaux croyants prouve qu'ils témoignaient au dehors. Le fait qu'on les appelait dans la ville, on les appelait les Christianinoi, qui était comme une moquerie, c'est-à-dire ils avaient la réputation dans la place publique que c'était les fanatiques de Christ. Ils parlaient de Christ tout le temps. Ça, on l'a déjà vu. Et ils envoient des missionnaires, on voit ça, pour fonder des nouvelles églises, un autre signe. Et oui, ce sont essentiellement ces choses-là. Maintenant, je voulais quand même dire quelque chose, l'équilibre entre les deux opposés dont j'ai parlé tout à l'heure, la clé, c'est Jésus qui le dit quand même, d'après le commandement qu'il nous a laissé, la clé pour bien continuer le travail au dehors, c'est de bien se fortifier les uns les autres en dedans ou au-dedans. Je vais répéter ça. La clé pour bien continuer le travail vers ceux du dehors, c'est de bien se fortifier les uns les autres au-dedans. Amen? C'est les uns par les autres que nous nous formons comme disciples solides et capables de vivre et de porter le message. Et, oh, wow, super, je suis déjà rendu. Merci beaucoup, José. Donc, voilà, pour bien continuer l'impact au dehors, se fortifier en dedans, ou mieux, les uns les autres au-dedans de l'Église. C'est le fun, non? C'est important ce qu'on fait ici, et le but, c'est ceux qui ne sont pas encore ici. J'ai une belle citation ici d'un livre, un livre important dans le domaine de la mission, et qui s'appelle « Évangéliser selon le maître » de Robert Coleman. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Quand l'Église apprendra-t-elle la leçon? Prêcher aux foules, bien que nécessaire, ne forme pas des leaders de l'évangélisation. L'exemple de Jésus nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, par des hommes qui restent aux côtés de ceux qu'ils forment. » Des hommes et des femmes, bien sûr. Ce n'est pas limité au sexe masculin. Voilà le livre, un des livres dont je me sers pour préparer cette petite section sur Actes, mais sur Antioche. Et je l'avais appelé l'exemple d'Antioche, en anglais « The Case for Antioch » de Jeff Yorg. Un livre très intéressant. Pourquoi? Parce que le livre des Actes, que j'espère tout le monde a lu ou est en train de relire ou va lire, parce que c'est vraiment ce livre-là qui nous inspire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres sur l'Église de Jérusalem. Et c'est quand même original de dire, regardons une autre Église du livre des Actes qui est peut-être plus proche dans sa réalité d'église comme la nôtre. Parce qu'à Jérusalem, c'est quand même assez, c'est important, il y a des exemples, puis c'est aussi assez exceptionnel. Puis cette fameuse église d'Antioche, je vous rappelle, on avait vu plusieurs qualités qui faisaient qu'on l'appelait, on l'appelle une église transformationnelle, un mot inventé, mais qui veut dire une église qui transforme les vies et puis qui transforme la ville dans laquelle elle est. Alors, on a vu, elle démontre la puissance de l'action du Saint-Esprit dans ses réunions. On a vu, elle innove dans l'évangélisation. On a vu qu'elle forme des disciples. On a vu, elle tient à la sainte doctrine. Elle résout les conflits d'une manière intelligente. Elle a des leaders forts et l'Église suit les leaders. Et finalement, la générosité. Et vous l'avez deviné, aujourd'hui, l'accent, c'est sur le numéro 3, la formation de disciples. Oui, Antioche, cette église d'Antioche, est un modèle pour nous ici à Montréal. Ils avaient leur stratégie à eux. Qu'est-ce qu'on voit chez eux? À leur époque, ils faisaient quoi? On ne peut pas tout savoir. Ce qu'on remarque, premièrement, ils ont formé une équipe d'enseignement avec des gens doués. Hein? Et on a la liste, et ce sont des personnes assez variées qui viennent de pays différents, et puis qui ont clairement des dons d'enseignement différents pour se compléter. Par ailleurs, on a vu, on fait un peu de révision, sont allés recruter Paul, le pharisien devenu croyant en Christ, dans une autre ville, quand même assez loin. Hein, Barnabas a quitté son travail d'enseignement à Antioche, fait un voyage à Tarse pour convaincre Paul pour venir déménager à Antioche et puis faire partie de cette équipe. Ça me rappelle un peu les équipes de hockey de la Ligue nationale, qu'il y a comme une date limite en mars pour faire des échanges, pour fortifier ton équipe avec des nouveaux joueurs bien sélectionnés pour compléter la liste de joueurs avec l'idée on va avoir plus de chances de gagner le championnat. Puis c'est ce que Montréal a fait, n'est-ce pas, Jean-François? Et on verra les résultats. Mais bon, restons quand même sur le sujet de la parole de Dieu. Mais c'est un peu la même chose avec l'idée que les équipes de hockey, quand même, ils ont tout un budget pour faire ça. Ils déplacent mers et mondes pour aller chercher le joueur disponible dont ils ont besoin. Et peut-être que les églises, on devrait penser comme ça. Peut-être se dire, mais qui est-ce qu'on pourrait recruter pour vraiment fortifier notre équipe d'enseignants ou d'enseignantes? En tout cas, c'est un bel exemple de priorisation d'enseignement. Et on voit que cet enseignement, ou on devine que cet enseignement couvre plusieurs domaines, plusieurs niveaux, plusieurs styles. Hein, on voit que cette Église se développe sur la question doctrinale, hein, parce que quand il est question de circoncision, à un certain moment, l'Église réagit, dit « Wow là, on a l'impression que l'Évangile est en train de changer et il faut qu'on règle cette question. » Et c'est l'Église qui parle. Mais c'est aussi, on voit qu'ils sont équipés au niveau des questions plus spirituelles comme les dons, comment les exercer, la prophétie et autres. Et on voit qu'ils pratiquent le jeûne et la prière. Et donc, on peut supposer que leurs enseignements couvrent des choses comme ça, comme la mission, comme la générosité. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, mais sans doute le fruit de l'enseignement de cette belle équipe. Et puis, là, j'en ai une troisième stratégie que, c'est M. York dans son livre qui, lui, il dit « répétition ». Alors, lui, ce qu'il dit, parce qu'au verset 26 du chapitre 11, lui, il fait un genre d'interprétation, je ne suis pas convaincu qu'il a raison, mais sa conclusion est quand même utile pour nous, vous allez voir. Il dit, Paul et Barnabas, ils ont enseigné pendant un an dans l'Église, et M. York, il dit, ça veut dire qu'ils ont développé un programme d'un an, puis après un an, ils ont pu recommencer le même programme. Et alors, je ne suis pas sûr que c'est ce que ce verset dit, mais ce n'est pas grave parce que le bon sens et l'expérience de la mission nous montrent par ailleurs que la répétition, ça c'est la caractéristique des vies chrétiennes qui sont solides et des églises qui avancent et puis qui sont capables d'accueillir les nouveaux et de les aider à grandir. La répétition, c'est par la répétition qu'on apprend. C'est en refaisant les choses qu'on apprend qu'on maîtrise les principes, qu'elles rentrent dans le cœur, qu'on peut garder les principes. C'est en répétant les cycles d'enseignement que les nouveaux qui arrivent peuvent bénéficier de ce que les plus anciens ont déjà reçu. Est-ce que vous me suivez? Alors, donc, les chrétiens mûrs que vous êtes, quand vous voyez qu'il y a de la répétition, ne dites pas, mais je comprends le réflexe, en n'ont pas ça encore, est-ce qu'on ne pourrait pas passer aux sphères plus élevées pour quelqu'un comme moi qui a déjà fait ce cours-là? Alors, je comprends ça, puis il y a une place, il y a un moment pour dire ça, mais n'oubliez pas, on doit recommencer les mêmes choses de base tout le temps parce qu'on veut avoir la main tendue vers les nouveaux, vers les nouvelles, vers ceux qui ne les connaissent pas encore. Amen? OK. Et c'est pour ça, par exemple, que le cours de baptême, ben, on les répète. Le cours de nouveaux membres, on les répète. Et à la limite, c'est pas mauvais de le faire deux fois ou trois fois. Parce que moi, n'est-ce pas, Jean-Pierre, tu souris, mais en l'enseignant, est-ce que tu ne l'as pas mieux appris? Oui? Tu dis ça pour me faire plaisir ou tu dis ça parce que c'est vrai? Tu as beaucoup appris, oui. Bon, amen, OK. Et maintenant, l'Oasis. L'Oasis, c'est nous autres, ça. On est à Montréal en 2017. Nous sommes dans la spirale qui a commencé à Jérusalem, à Antioche, du monde fidèle, et nous, on est là. J'ai trois questions. J'ai trois questions pour l'Oasis. Premièrement, oh non, c'est pas ça la question. La question est là. À quoi doit ressembler une disciple ou un disciple qui est bien formé? Donc, juste pour que vous sachiez, les responsables de l'Église, ça fait partie de nos discussions, vous aussi sûrement, dans vos foyers, entre amis. On se pose cette question, peut-être sans le dire, c'est bon de le dire, à quoi ça devrait ressembler un membre de l'Oasis qui a été bien formé? C'est quoi le produit? Si on était une usine, à quoi doit ressembler le produit qui sort de l'usine? Excusez-moi cette illustration, mais c'est quand même vrai parce qu'à ce moment-là, le genre de formation qu'on va mettre sur pied, on va l'adapter au but qu'on veut viser. C'est logique, non? Donc, des questions comme quelle forme de vie est-ce qu'on aimerait qu'une membre aille? Ou que moi j'aille, on commence par soi-même. C'est quoi les connaissances doctrinales que tu serais supposé avoir au minimum pour dire, ah bien ça c'est quelqu'un qui est bien formé. C'est quoi les disciplines spirituelles qui sont importantes pour nous? Bon, une discipline spirituelle, ça peut paraître intimidant comme mot, mais c'est des choses comme la prière, le temps personnel avec Dieu le matin, la confession de mes péchés, donner de l'argent, la dîme, l'offrande à l'Église. Il y a toutes sortes de disciplines spirituelles. Quelles sont vos pratiques communautaires? Quelles sont vos pratiques familiales? Peut-être le plus important, quel est ton caractère? Quelles sont les marques du caractère d'un oasisien qui avance avec le Seigneur? J'ai pas les réponses à ces questions. Je pense qu'on a tous des réponses à ces questions. Et je pense que le jour où on réussit à en parler les uns avec les autres et se mettre d'accord, sans se taper dessus, mais de dire, moi, on va viser ça ensemble, mais je trouve que ça va vraiment être merveilleux. Donc, ça, c'est la première question. On est au début de notre réflexion. À quoi doit ressembler un disciple formé? Deuxième question. Quelles sont les stratégies à notre disposition? On en a vu trois à Antioche, mais l'Oasis, elle a quoi? Elle a quoi comme stratégie? Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient proposer. Vous allez voir ma liste. J'ai fait un genre de mini-inventaire rapide hier, mais peut-être vous savez, vous voulez dire. On va jouer comme... Comment ça s'appelle, cette émission, où vous devez deviner ce que les autres ont deviné? La guerre des clans. Oui, faisons la guerre des clans. Qui aimerait proposer une stratégie qui existe déjà dans l'Oasis? Les petits groupes, oui, mais il est numéro 5, donc tu as juste un point. Bon, les petits groupes, très importants. Oui, autre chose? L'évangélisation. Oui, l'évangélisation, qui n'est pas dans ma liste, mais c'est quand même très bon. Non, mais c'est pas grave. Oui, OK. Alors, bon, là, vous êtes en train de discréditer ma liste. J'ai pas pensé à ceux-là. Mais allons-y avec ma liste à moi. Merci. Premièrement, les programmes du dimanche, est-ce que ça ne contribue pas à la formation? J'espère que oui. Les sermons doivent faire partie de ça. Les programmes, par exemple, du J3, du J2, les programmes du Pays des Merveilles sont très importants. Moi, j'ai mis la famille, c'est-à-dire, on en parle peut-être peu, mais est-ce que ce n'est pas dans les familles qu'on forme des disciples, qu'on coach nos enfants, qu'on amène nos problèmes devant Dieu? Il y a des membres de l'Oasis qui prennent quelqu'un d'autre, peut-être un chrétien plus récent ou quelqu'un qui n'est pas encore croyant, sous leur aile et puis qui font comme un programme de rencontre un à un avec cette personne. Et ça, ça demande du temps, du sacrifice, de l'amour, et c'est très précieux. J'ai moi-même été suivi par quelqu'un dans ma première année de vie chrétienne à l'Université d'Ottawa, comme ça, et je peux dire que ça m'a beaucoup formé. On organise des retraites, des conférences, des cours, et c'est ça. Le numéro 5, très important, voyons, oh non, OK, il a gelé encore, c'est les petits groupes. Qui, eux aussi, sont il est apparu. Ah, tant mieux. Les groupes d'intérêt, les cellules. Donc, les groupes d'intérêt, c'est comme, on les appelle des cellules, mais disons, ils ont peut-être un but précis, comme par exemple le J316 a été, comme par exemple le groupe des dames. C'est une cellule. Au départ, il y avait un but de prière et en même temps, oui, ça contribue à la formation de disciples. Et hier, justement, nous avons eu notre première rencontre depuis longtemps des responsables des cellules, des groupes d'intérêt. On était 8 et voilà le groupe en prière. Désolé, je ne vous ai pas averti. J'ai pris votre photo. Le groupe en prière. Donc, on était vraiment bénis de voir ce que Dieu faisait. Puis en même temps, le défi devant nous, on sentait qu'il était très important avec les moyens qu'on a. Et donc, on a prié avec ferveur, comme vous voyez ici. Ça, ce n'est pas du théâtre, c'était vraiment ça. Et en passant, la prochaine rencontre des responsables de groupe, c'est le 7 mai, c'est un dimanche. Et ça, donc, il y aura plus de nouvelles. Dimanche après-midi, on donnera plus de nouvelles. Et donc, en fait, quel groupe merveilleux. Mais vous remarquerez que, c'est peut-être difficile à voir, c'est pas mal du monde 40 ans et plus, disons. Donc, ma prière pour le 7 mai, c'est que ceux qui ont moins de 40 ans et qui n'ont pas pu venir cette fois-ci, puissent venir. Puis ma prière pour le long terme, c'est que vraiment, notre spirale, elle va transcender les générations et puis qu'on va se reproduire, nous les vieux, dans les plus jeunes, et les jeunes vont se reproduire dans les plus vieux. On a vraiment besoin les uns des autres entre les générations pour devenir des disciples mieux équipés. Amen? Êtes-vous d'accord? Vous êtes d'accord? C'est très important. La troisième et dernière question, puis je termine là-dessus. Ma décision à moi dans tout ça. Est-ce que je veux vraiment être un disciple, comme Jésus me le demande? Est-ce que, jusqu'à présent, je me contente de jouir de la grâce merveilleuse de l'Évangile? Si je me contente simplement d'en jouir, ben, laisse-moi dire que quand même, je suis content pour toi si c'est ça que tu fais, parce que l'Évangile va faire naître en toi le désir de redonner. Et bon, je crois que tous, à un certain niveau, on redonne chacun là où il en est, mais le jour va venir pour chacun de nous, où on va se dire, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je donne plus. Il faut que je m'engage d'une manière plus pure, plus concrète. C'est quoi le prochain pas pour toi? Puis c'est ça ma question aujourd'hui pour chacun de nous. C'est quoi le prochain pas pour moi en 2017 à l'Oasis? Peut-être que ce sera à l'intérieur de l'Oasis. Peut-être que tu te dis, il faut que je me forme davantage. Je vais me joindre à une des cellules maison parce que j'ai besoin, moi, d'être fortifié. Peut-être que tu vas prendre responsabilité pour quelqu'un d'autre dans l'Oasis pour la former ou le former. Peut-être que pour toi, c'est un engagement à l'extérieur de l'Oasis, dans une mission, par exemple. Mais en te laissant soutenir par ta famille Oasis dans cette mission. Par exemple, faire partie d'un groupe biblique dans ton cégep ou dans ton milieu du travail. Peut-être que c'est un comité communautaire où tu veux être un témoin. Peu importe la décision, cela va demander un sacrifice. Cela pourrait apporter des souffrances. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, moi, ce que je vous dis ce matin, c'est prie là-dessus, puis fais le saut. Quand Dieu te montre, il n'y aura pas de tordage de bras. Quand le Saint-Esprit te montre, voilà ton pas, le pas que j'ai préparé pour toi, eh bien, fais le saut, ma sœur. Fais le saut, mon frère. Ça va être merveilleux. Pensez à l'apôtre Paul qui, après Jésus, c'est la personne du Nouveau Testament qui semble avoir le plus souffert dans la formation de disciples. Pensez-vous qu'il a regretté son choix? Qui pense qu'il a regretté son choix? Non, hein? Non. Voici ce qu'il dit, lui, en pensant à combien il a souffert comme apôtre. Il dit, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées. » Elles ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. On parle de ce qui s'en vient, mes amis. On parle du royaume des cieux, qui est déjà dans nos cœurs, mais on va recevoir le plein héritage quand Jésus va revenir. J'estime, dit Paul, puis j'espère que tu le dis aussi, j'espère que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. Amen. Alors, prenez un moment pour prier. Je vais inviter quelques personnes à élever la voix. Et des prières courtes. Je vous demande des prières courtes aujourd'hui. Et puis, et après ça, c'est Richard qui va venir pour nous guider dans la suite. Prions.